pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Les fraudes qui me révoltent le plus, puisque je suis aussi un consommateur, c'est les fraudes où on présente un cadre agréable, un cadre où le consommateur est d'emblée en confiance et où on va lui servir tout ce qu'il y a de plus industriel, quoi. Je pense par exemple à la vente des œufs sur le marché, hein, qui vont être présentés avec un petit panier d'osier sur un apron. Et quand on découvre que ce sont des œufs industriels, hein, des œufs de poule en cage qui ont à peine une feuille à quatre pour survivre, qui ne voient pas la lumière du jour et qui sont à côté de cadavres parce qu'il y a 15 à 20% de mortalité, on a du mal à accepter que ça soit vendu comme de la poule plein air, laissant croire que la poule avait tout l'espace vital souhaitable, qu'elle avait le bien-être et que l'œuf est de meilleure qualité. On ne peut pas prévoir à l'avance ce qu'on va trouver. On se laisse guider un petit peu par les constatations, notre instinct, et en fait le contrôle se déroule tout seul.
Il veille au respect des bonnes pratiques d'hygiène, vérifie les dénominations, les provenances, traque les fraudes alimentaires, enquête, contrôle, débusque les coups tordus, arrive par surprise, fouille les poubelles au besoin, puis relève les infractions et verbalise si nécessaire. Comme les inspecteurs des impôts et comme certains journalistes, ce qu'ils détestent particulièrement, ce ne sont pas les produits avariés, toxiques, chimiques, industriels ou présentant de graves dangers pour la santé, ce sont les mensonges, les bons gros bobards, les yeux dans les yeux, la mauvaise foi évidente, la fraude frontale, immorale. C'est une tendance du moment, très à l'américaine, trouver le mensonge pire que la fraude. Ils sont inspecteurs des fraudes, donc, dans l'hygiène alimentaire, un métier d'avenir, si on en croit les scandales liés à la viande de cheval, révélant par exemple que plus d'un produit au bœuf sur 8, 13,3% en France, contiendrait de la viande de cheval, si on en croit aussi les scandales sur les conditions d'abattage des animaux, comme nous en parlions d'ailleurs hier dans Les Pieds sur Terre. Ils peuvent contrôler tous les commerces, petits ou grands, et réalisent environ 220 contrôles par an sur toute la Seine-Maritime. Ils s'appellent Franck et Vincent, ils travaillent en binôme avec un petit côté Dupont et Dupont et une haute conscience de la gravité de leur mission. On les écoute jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre pour deux inspections tendues qui vont peut-être achever de vous dégoûter de la viande. C'est notre retour sur du vendredi, une émission diffusée pour la première fois le 3 novembre 2008, signée Leïla Djitli.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, on est à quelques kilomètres de Rouen. On est dans une zone relativement rurale. Et en passant l'autre jour à l'occasion d'une enquête, on a aperçu une boucherie de détail qui est ouverte entre midi et deux, ce qui pour ce type d'établissement est inhabituel.
Mais je pense qu'il ne faut pas aller plus loin dans l'interprétation. C'est un constat. C'est une méthode de ciblage comme une autre.
Donc là, on rentre dans une boucherie-charcuterie.
Tout à fait.
Oui, allô? Oui, bonjour, là. De mouton, enfin d'agneau. Hein. D'accord, c'est noté. Merci, au revoir, madame.
Donc on va commencer par regarder le rayon et puis regarder un petit peu ce qui s'y trouve, les dénominations de vente et puis les éventuels signes de qualité.
Même important la première impression qu'on peut avoir d'un établissement. Ce que je note en particulier, c'est que ici, il se trouve qu'on arrive, tous les prix sont affichés, les dénominations sont précisées. Donc c'est déjà un signe avant-coureur que le professionnel est sérieux. Le tableau de prix est à peu près correct. La macreuse à pot-au-feu, on l'a. Par contre, on n'a pas le prix de la macreuse à rôtir. Et puis, il y a des dénominations, on va dire d'usage, voire un petit peu interdites, comme filet mignon, pour désigner du rond de tranche grasse. Alors que le filet mignon, tout bouché, sait parfaitement que c'est la petite chaînette qui est au niveau de la basse-côte. Il y a quand même beaucoup de bouchers qui aiment rajouter le mot filet parce que c'est vendeur.
Voilà, une marque 600 grammes de filet.
Pourquoi, madame?
Ça va, monsieur, il vous trouve le patron quand il y a un contrôle?
Comme je dis, ben, les contrôles, ça permet d'avancer. Hein. Si on reste sur une erreur, on fera l'erreur toute notre vie, quoi. Donc, autant de la régler tout de suite, et puis voilà, quoi.
Alors, ça nous fait 18,09, s'il vous plaît, madame.
Par exemple, on voit marqué pintade fermière. Il n'y a pas de signe apparent sur les pintades, donc on va demander la facture pour s'assurer du caractère fermier.
11,55.
Est-ce que vous auriez votre facture de volaille, notamment les pintades?
Alors,
les pintades. Non, ils sont à la maison.
Merci
bien. Et prenez chez. Chez. Oui, bah, donc a priori, je dirais qu'elles ne sont pas fermières. Vous avez bien la mention fermière sur la facture? Parce qu'à notre connaissance, cette société, elle ne fait pas de volaille fermière.
D'accord.
Vous ne pouvez pas décréter que la pintade est fermière si vous n'en avez pas un minimum de garantie, notamment de la part de votre fournisseur.
Y a-t-il des choses que vous fabriquez et des choses que vous achetez? Alors, dans le rayon charcuterie?
Pâté de lapin, pâté au piment, le restant, ben, c'est, on achète. Hein.
D'accord. Est-ce que vous conservez les dates limites de consommation de ce que vous achetez?
Voilà.
Tout est là? On peut regarder, par exemple, les andouillettes, s'il vous plaît.
Alors, 3,89, s'il vous plaît.
Bonjour.
Merci, au revoir, madame.
Là, on va aller visiter la chambre froide où sont détenues les viandes qui n'ont pas encore été travaillées, donc les carcasses.
Vous regardez beaucoup, mais vous voyez des choses, là?
Là, oui. Oui, oui. Alors, en fait, bon, on a vérifié très rapidement l'hygiène globale en passant derrière. Et là, on s'aperçoit que c'est un établissement qui probablement était très vieux et où il y a eu beaucoup de travaux qui ont été pratiqués dans une période récente. Mais il reste quelques travaux à faire qui génèrent des anomalies d'hygiène. Et notamment, on a des endroits où il reste encore beaucoup de vieilles choses, de poussière, enfin de choses qui doivent être normalement isolées. Le reste, ce qui est neuf, étant par ailleurs très bien tenu.
C'est par où?
Oui.
On peut rentrer, madame? Il y a de la musique?
Pour travailler, c'est plus gai d'avoir de la musique, quand même.
Vous travaillez ici, vous aussi?
Oui, bah, quand on fait les saucisses, oui, oui. Bah, puis, bon, il y a quand même du lavage à faire, du nettoyage, donc la vaisselle.
Vous faites des rachats?
Bah, c'est ce que je disais avec votre collègue, il va falloir que vous voyez avec mon mari, parce que c'est lui qui s'occupe
lui
de tout ça. Donc,
d'accord. Vous avez une sous-videuse?
Oui, vous êtes passé à côté tout à l'heure.
D'accord.
Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas trouvé
l'étiquette d'origine de la viande de veau. Vous savez, vous avez une petite étiquette qui est agrafée sur la carcasse.
C'est ça, non?
Ça serait bien ça. Veau, demi-veau, croisé laitier, origine France. D'accord.
Ici, c'est marqué Irlande. Je vais vérifier que le reste de la marchandise détenue en chambre froide est français. Mais non, c'est pas interdit. Il n'y a rien qui prouve d'ailleurs que ce ne soit pas de la viande de bonne qualité. Ce qui est interdit, c'est de ne pas donner l'information au consommateur. Il a le droit de savoir ce qu'il achète. Donc voilà.
Qu'est-ce que vous mettez là, Vincent?
Alors, c'est parfois un petit peu plein de sang, les paquets de viande et tout ça. Donc on préfère... Enfin, personnellement, je préfère avoir des gants. Mon collègue s'en passe.
Nous, on ne travaille pas avec des gants. Mais bon, après, chacun a sa façon de voir les choses.
Pour moi, l'important, c'est que les... Alors, le problème des gants. Souvent, on dit qu'il faut avoir des gants pour remettre à la clientèle, machin. Moi, je préfère que les gens se lavent les mains.
Oui,
voilà.
C'est vrai.
Donc, mes gants sont à usage unique pour ma part. Mais quand on voit dans les rayons charcuterie des gens, oui, qui ont les gants depuis le début de la matinée, donc les gants sont sales, oui, quelque part, le remède est pire que le mal. Voilà. C'est au bilan, peut-être. Je pense qu'on a terminé la visite.
Oui, je pense que c'est...
Bon, alors, sur un plan commercial, il faut que vous surveillez ce que vous marquez. Si vous marquez fermier, vous devez vous assurer, notamment via la traçabilité facture, que c'est bien du fermier. Sinon, l'appellation filet mignon pour le rond de tranche grasse, vous ne pouvez pas.
D'accord.
Okay, et puis, bon, deux, trois petites remarques. En matière d'hygiène, l'établissement est bien tenu. Vous êtes correctement équipé, il n'y a pas de souci. En revanche, il faudra penser à clôturer le placard que vous comptiez faire dans l'autre local. Là.
Oui, j'ai pas fini.
Voilà.
Oui.
Bon, donc il faudra penser, je peux comprendre hein, qu'il reste ça à faire, mais il faudra penser à le faire rapidement parce que vous avez une zone qui reste sale au milieu d'une zone propre. Et puis pensez à équiper ce labo en savon sèche-main.
Comment vous vivez ces contrôles-là, en fait?
Les contrôles aujourd'hui, ben, c'est. Si dit, après, s'il y a des horreurs, je ne sais pas s'il y a des amendes, etc. Voilà, quoi. Mais, s'il y a des amendes, demain je ferme. Hein. Parce que ben, on est dans des situations. Putain, ça me coûte. Moi, j'en ai marre.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Et j'ai tout fait, tout fait. Toi, dans le paradis que vous regardez. Et puis, on va se faire planter pour des conneries, on essaye d'avancer.
Mais monsieur, monsieur, s'il vous plaît.
Oh non,
bah oui, vous plaît, monsieur, vous énervez pas.
Non, j'en ai
hein, tout se passe bien. Je voulais mon
avis. Franchement,
non, mais monsieur.
Va voir s'il y a du monde au bout. Va voir quand même. Franchement, c'est la fatigue, je ne sais pas.
Non mais c'est rien contre vous, monsieur, je sais bien que vous faites votre travail, mais c'est vrai que pour nous les commerçants ça devient de plus en plus dur au niveau financier, au niveau de toutes les réglementations, et c'est vrai qu'on est à bout de nerfs à la longue, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on fait tout ce qu'on veut, bon mon mari il est du matin jusqu'au soir dans la boutique, et c'est vrai que bon il y a un moment donné c'est qu'on craque... On craque émotionnellement, quoi, parce que bon, bah, c'est vrai qu'on est tout le temps réglementé sur tout. Et bon, nous, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qu'on délaisse parce que bah, on est tellement pris par le travail que bon.
Je vais me permettre, madame, je vais vous donner mon point de vue parce que je vois tellement de bouchées. Bon, d'abord, la première des choses, bon, je comprends votre stress. Bon, parce qu'un contrôle pour tout citoyen, c'est quelque chose de stressant. On imagine le pire. Bon, sachez quand même que. En général, quand le professionnel fait de son mieux, le contrôle se passe bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite contentieuse. Enfin, bon, on est là aussi pour expliquer. Donc, vous aurez droit à un courrier. Ça vous permettra de progresser et tout se passera bien.
D'accord.
Voilà.
D'accord, ok.
J'espère que c'est quand même pas à cause de ma remarque que vous vous êtes emporté.
Non. C'est que... Voilà.
C'est un peu le souci, on est là pour dire ce qui va pas. Si on le disait pas, et ça nous serait reproché.
Voilà, c'est normal. Mais c'est le stress, comme je dis, d'avoir une amende. Et puis, ben voilà, si on a une amende, demain je ferme. Ben, c'est pas dur.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous méritez pas d'amende aujourd'hui, d'accord ? On a quelques remontrances à vous faire, vous les faire. Mais
Comme je dis, on peut pas être parfait. Comme je dis, c'est comme un contrôle de gendarmerie. On a toujours peur si on a roulé trop vite, ou etc. Hein, c'est...
Alors il y a quand même une dimension qui est importante dans notre contrôle, et ça je veux vous le dire. Hein. C'est qu'un contrôle de gendarmerie, un contrôle de vitesse, tout est automatisé, l'humain n'intervient pas. Vous dépassez de 2 km/h, c'est terminé, vous prenez votre amende, hein, et vous avez plus qu'à payer. Les contrôles de la répression des fraudes, c'est quand même légèrement différent. C'est-à-dire qu'on peut déjà vous adresser un courrier. Il y a le côté humain, je disais, et il y a aussi, et ça c'est important pour nous, le fait que dans la décision de mettre un procès-verbal, en tout cas moi personnellement, je cherche toujours à savoir si le boucher savait ce qu'il faisait et s'il l'a fait exprès.
Donc on vous disait, vous recevrez un courrier. À l'occasion d'un nouveau contrôle, si on ne retrouve pas ces anomalies, ça s'arrête là. Si en revanche on retrouvait les mêmes, cette fois vous seriez verbalisé. Ça s'appellera avertissement. N'ayez pas peur.
Voilà. Bah, merci beaucoup, monsieur.
Écoutez,
au revoir.
Je vous dis pas à la prochaine.
Si,
je vous dis à la prochaine.
Oui,
je vous dis à la prochaine parce que.
Vous êtes sur une bonne pente, il n'y a pas de raison. Voilà. Vous saluerez votre femme.
France Culture, les pieds sur terre.
Ça se passe toujours très bien et les emportements sont très rares, très très rares. C'est certainement quelqu'un de très émotif qui prend tout à cœur. Souvent ces gens-là, ils s'investissent énormément dans leur travail.
Ils supportent mal que ça suffise quand même pas.
Ils supportent également peut-être mal qu'on leur fasse des remarques, tout simplement des remarques, qu'on leur dise là ça va pas, là ça va pas, alors qu'ils estiment à juste titre qu'ils font déjà pas mal.
Risquait combien, Vincent, le boucher que l'on vient de voir, si vous aviez mis une amende ?
Normalement, ce sont des contraventions de 3e classe pour la plupart. Donc le montant maximum de l'amende par contravention, c'est 450 € au plus pour une personne physique.
Derrière toute fraude, toute infraction, il y a souvent un gain économique pour le professionnel qui fraude. Les apparences sont très très souvent trompeuses. On peut même avoir les plus grandes surprises en rentrant dans une boutique qui a pignon sur rue et qui présente très bien. Il n'y a pas très longtemps, mon directeur est venu me voir, il me dit « Franck,
Je pensais pas qu'à notre époque, on pouvait trouver des choses pareilles. J'étais passé dans une boucherie traditionnelle, comme quoi, bon, il y a des bouchers qui travaillent bien comme aujourd'hui, et il y a de tout, il y a vraiment de tout et du pire. Je suis tombé un jour donc sur un boucher. C'était même un très bon professionnel, puisqu'il alléguait en vitrine que son apprenti avait reçu la distinction de meilleur apprenti de France, donc je ne sais plus quelle année, mais bon, bref, il n'y avait pas de doute possible sur sa compétence de boucher et sur la qualité de la viande. Et finalement, en contrôlant dans la chambre froide, le constat, il est sans appel. On se retrouve avec un bon tiers, voire deux tiers de viande qui était périmée. Alors quand je dis périmée, c'était pas un jour, c'était 20 jours jusqu'à 170 jours ou 173. C'était des produits corrompus, c'est-à-dire avec des signes visibles d'altération grave, d'altération microbienne. Vous aviez des cloques sous les boudins à cause des développements de colonies. Vous aviez une espèce de gelée verte qui s'était formée en surface des produits. Les gens me croiront pas, mais je vous donne mon billet, c'était la réalité. Et même pire que ça, puisque les produits, certains, étaient entreposés dans la chambre froide, donc dans un état de corruption avancé, toujours dans le plat de vente. J'avais notamment un pâté, donc la tranche était moisie. Je suis persuadé que le professionnel n'attendait qu'une chose, c'était de couper la tranche pour la rafraîchir et remettre dans le rayon. Mais derrière ce genre de fraude, il y a quoi ? Il y a un professionnel qui cherche à tout prix à valoriser sa marchandise et qui préfère le passer en rayon en me disant droit dans les yeux « Mais monsieur, je garde pas les dates, mais jamais je me permettrai de servir des produits qui seraient pas frais. » Et au final, à force de chercher, vous retrouvez une étiquette du produit qui est dépassé, vous retrouvez des produits corrompus, vous retrouvez ce genre de choses.
Est-ce qu'on continue dans la rue de cette petite ville ?
Non, je pense que notre présence n'est pas du tout passée inaperçue, donc ça sert entre guillemets moins de faire ici, on va aller dans les villages voisins.
Vous pensez qu'on est repéré ?
Ah parfaitement oui, tout le monde sait qu'on est là. Il peut toujours y avoir des surprises, mais c'est pas le même effet de surprise. On va aller contrôler un petit supermarché.
Filet de bœuf, race sarolaise, le kilo 22,90€. C'est un prix particulièrement intéressant pour du filet de bœuf. Donc on va vérifier.
Ça c'est louche. C'est très louche. Mon nez me dit que...
Il y a un risque. Donc monsieur Pouchard, monsieur Bernard de la répression des fraudes, on pratique un contrôle au rayon boucherie. Est-ce que c'est possible de parler à un responsable du magasin, s'il vous plaît ? On va commencer par regarder le rayon.
Alors là, votre collègue est en train de regarder, il a le nez sur l'étalage de viande, il regarde tout.
Vous voyez, sur les pièces d'agneau, il est obligatoire de pratiquer le retrait des moelles. Donc là, on peut voir que ça a été fait. C'est au moment de la découpe et de la présentation au rayon, il y a une tige en téflon qui permet d'aller chercher la moelle au milieu des pièces d'agneau.
Et pourquoi ? En quoi ça garantit l'hygiène ?
Eh bien parce que ce sont des matériaux qui sont susceptibles d'être contaminés. Alors vous savez que sur le mouton, on a eu très récemment des problématiques de tremblante. C'est le vecteur de contamination, c'est la moelle.
Et pour la vache folle aussi, vous m'expliquiez que c'était la moelle aussi. Donc ça doit être retiré.
Normalement, les moelles des gros bovins de plus de 30 mois doivent être retirées et les corps vertébraux, normalement, doivent être sectionnés de telle manière qu'en cas de présence de prions, celui-ci se trouve inhibé, ne soit plus dangereux pour le consommateur.
Je vous suis. Là, on passe derrière l'étal là, de la boucherie, du magasin.
Mon collègue me fait signe, il me dit j'ai l'impression qu'ils ont jeté quelque chose pendant qu'on discutait là devant le rayon. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à chercher et on fouine. Étonné de trouver des pré-emballages de charcuterie entre la poubelle et deux couvercles. Voilà, c'est juste étonnant. Donc, on va regarder la date. Hein.
Par exemple.
Première chose qui me paraît suspecte, c'est que l'emballage, normalement, il devait être sous vide et là, il a l'air d'être dessous-vidé. À consommer jusqu'au 2 avril. Surtout que donc la date, là, elle est dépassée. Hein. Je dirais tout simplement que si le boucher voulait vraiment faire autre chose que nous dissimuler des produits dépassés, d'abord, depuis le 2 avril, il avait largement le temps de s'en débarrasser. Hein, et puis, il les aurait pas planqués.
Ça va, c'est pas trop stressant pour vous de les recevoir ?
Ils font leur métier, qu'est-ce que vous voulez ? On est bien obligé de les laisser faire. Mais bon, c'est sûr que c'est pas toujours très agréable, mais bon, quand on n'a rien à... à se reprocher à la limite. Moi, personnellement, j'ai un responsable boucherie qui gère son truc. Hein. Je viens pas...
Ah bon, mon petit doigt me dit que c'est pas fini. Donc là aussi, c'est bizarre. C'est très, très, très bizarre. Vous pourriez me préparer le registre de traçabilité des viandes bovines, du bœuf?
C'est un cahier qu'il a, c'est quoi?
Ah, il n'y a pas de cahier. Hein.
C'est un truc sur l'ordinateur. Il doit faire ça sur une clé USB.
Est-ce que vous
Et
avez...
cette clé, ouais. Je ne l'ai pas, malheureusement, elle est D'accord. en sa possession à lui, il n'est pas...
Est-ce que vous avez le dernier rapport d'audit de traçabilité de la boucherie?
Oui, j'ai ça, ouais. Je peux aller vous le chercher, si vous voulez.
Bah oui, j'aimerais bien que vous le trouviez.
D'accord, il n'y a pas de souci.
Je vais venir avec vous. J'aimerais qu'on voit ensemble un petit peu ce que vous avez en chambre de travail. Vous avez des quantités importantes de viande du Royaume-Uni. Quelle information donnez-vous aux consommateurs sur le fait que vous détenez des viandes britanniques dans votre chambre froide? Si vous donnez pas l'info, vous pouvez me le dire. Hein. Enfin, je veux dire, après.
Ouais, moi, je donne pas spécialement d'infos.
Vous donnez pas d'informations?
C'est rare. Je suis. Pas servir.
D'accord.
Quand c'est pour moi qui gère les commandes, c'est pour moi qui.
Alors, qu'on soit bien d'accord, je vous fais des remarques parce que c'est mon travail.
Oui,
c'est pas orienté contre vous, évidemment. Donc, c'est quand même un peu gênant de constater des rachats massifs de viande britannique sans communication.
Vous, de votre côté, pendant que Franck est dans la chambre froide...
Nous avons ces barquettes qui portent un numéro de lot, une date d'emballage et une date limite de consommation, qu'on a donc trouvé sans la viande qu'elle contenait à l'origine. Et on a une viande qui porte, a priori, le même numéro de lot, qui était présenté à la vente en rayon avec une date d'emballage et une date limite de consommation différentes. Donc à ce stade, on n'en tire aucune conclusion, mais bien évidemment, il va falloir nous donner des explications par rapport au fait que des viandes de même dénomination avec le même numéro de lot se retrouvent avec des dates limites de consommation différentes. Le boucher me dit que la viande qui correspond à ce lot, c'est celle-ci. Soit il se trompe, soit ce qui est marqué ici sur l'étiquetage est inexact. Dans les deux cas, on a un problème, c'est-à-dire que la traçabilité qui est indiquée ici, ça n'est pas celle-là, et l'origine qui est indiquée ici, ça n'est pas celle-là.
Le numéro de lot, c'est pas le même non plus.
Donc, monsieur, je vous repose la question. Je voudrais accéder à l'emballage d'origine de cette viande.
C'est ça.
Non, attendez, c'est pas cette pièce-là, celle-ci.
Parce que là, c'est Espagne et là, c'est France.
Je voudrais savoir ce que vous avez fait de l'emballage d'origine de cette viande.
C'est l'emballage-là.
L'emballage est parti à la poubelle. Donc on a une perte de traçabilité et de date limite de consommation sur l'ensemble du lot.
Vous gardez pas ça, les étiquettes, là, comme ça, comme...
Mais ça fait partie du champ de notre contrôle, les poubelles.
Oui, bien sûr.
Malheureusement. Non, attendez, parce que là, ça va pas. La dénomination de vote, elle est pas bonne. Là, vous marquez tranche à rôtir sur l'étiquetage, c'est marqué macreuse. La date limite de consommation, c'est pas la même, le numéro de lot, c'est pas le même, l'origine non plus. Donc si véritablement vous me dites que c'est celui-là l'emballage d'origine, il y a un souci.
On a quand même l'impression que c'est pas sérieux. Voilà. Pour la moitié de ça, ça finit au pénal. Hein. Parce que là, il y en a beaucoup trop. Si on fait le cumul de tout ce qui va pas, des soupçons de fraude... Ça fait quand même beaucoup. J'étais venu en 2009, j'avais verbalisé, et je retrouve absolument les mêmes anomalies.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est problématique.
Je sais pas, je l'ai appelé oui. Justement le responsable boucherie.
Là, on a quand même quelque chose d'assez tangent au niveau de l'état de fraîcheur. Hein.
Mm.
Vous voyez
ouais.
L'aspect est poisseux et pas brillant.
Mm.
On commence à avoir des taches vertes. L'odeur, ça va encore, mais...
Je vais finir avec le registre de traçabilité. Où est-il, madame, votre registre? Oui, donc là, ça va pas du tout. Autant dire que ça va pas. On a des problèmes soit de traçabilité, soit de date limite. Des produits qui ont un aspect quand même un peu douteux.
C'est déjà un problème
On en rediscutera, madame. Mais
c'est
vrai.
De toute façon, le responsable boucherie se propose que vous repassiez demain. Il n'y a pas de souci. Il est prêt à vous rencontrer. J'ai rien, j'ai pas d'éléments.
Non, madame,
j'ai rien du tout. C'est lui qui a sa clé USB, il a tout sur lui.
Non, mais
je peux rien vous prouver, je peux rien vous sortir.
Qu'on soit clair.
Hein, c'est ça le souci.
Ne vous emportez pas.
Non, non, mais ça m'agace parce qu'il a tout sur lui. Donc voilà. Ça, il sert à rien chez lui.
Ça serait quand même l'idéal. Ça serait quand même que votre chef boucher, il montre une fois à l'employé qui est en charge du rayon en son absence, comment marche la traçabilité.
Voilà. On sait rien, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui gère tout. Hein. Voilà.
Bon, madame.
J'ai rien, j'ai pas de support, je peux rien vous prouver. Lui, après, s'il fait des conneries derrière mon dos, malheureusement, je peux pas être tous les jours dans le frigo boucherie pour vérifier.
Vous savez, madame, on vous demande pas ça.
Non, bien sûr, je sais bien.
On va pas vous demander l'impossible, madame, il n'y a pas de problème. On le saura ultérieurement, puis c'est tout, c'est pas grave.
Mais c'est pas bon pour vous de suivre un contrôle comme ça, dans cet état. Ça rime à rien, ça apportera rien. Donc, ce que je vous propose, vous avez certainement d'autres choses à faire.
En plus.
Voilà, donc vous le faites, et il n'y a pas de souci. Dès que le contrôle est terminé, on vous rappelle. Entendu ?
Et on vous explique.
Gentil. Voilà, ne vous inquiétez pas.
Là où on peut comprendre la dame, c'est que c'est pas elle le chef boucher, donc c'est pas elle qui met en œuvre les procédures de traçabilité au sein de la boucherie, donc on peut comprendre que ce soit stressant de se retrouver à avoir à répondre à une question dont, à l'évidence, on ne possède pas la réponse. Parce que là, bon, il faut être extrêmement prudent, on en est au stade des constats, donc on ne tire pas encore de conclusion, mais potentiellement c'est une anomalie assez grave. On peut se situer sur un délit là. On est sur un délit de pratique commerciale trompeuse qui va jusqu'à 37 500 euros d'amende. Jusqu'à... Et plus pour les personnes morales. Et dans ces cas-là, les personnes morales encourent jusqu'à 5 fois le montant maximal de l'amende prévue pour les personnes physiques.
C'est-à-dire ?
Au cas particulier, 5 fois 37 500 euros d'amende. Je ne me risquerai pas à faire la multiplication de tête, mais voilà. C'est...
Qu'est-ce que vous allez faire avec toute cette viande-là ? Vous allez repartir avec ou pas ?
Non. Nous n'avons pas le pouvoir de le faire jeter illico presto. Simplement sur le fait que la date limite est dépassée.
Alors justement, on était en train d'en parler. Quelle destination vous donnez aux deux roues de boudin aux oignons DLC dépassés, là ?
Ah, ça, c'est pour moi.
D'accord.
C'est à côté. Là.
Vous voulez bien nous appeler le responsable du rayon d'à côté ? S'il vous plaît, merci. Wandering
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et notre retour sur du vendredi avec les inspecteurs de la croûte. Une émission de Leïla Djitli réalisée par Annabelle Brouard et diffusée pour la première fois le 3 novembre 2008. Merci à Franck et à Vincent, les inspecteurs ainsi qu'aux petits et grands commerces qui nous ont ouvert leurs portes. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nous avons un compte Twitter et une page Facebook qui attendent vos likes et vos partages et vos commentaires avec impatience.